Mesdames et messieurs, chères clientes et clients, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette conférence téléphonique, la sixième et dernière de cette série. Deux autres conférences seront toutefois organisées le 14 et 28 mai. Je m'appelle Sandro Marino, je suis Chief Investment Officer à la Banque d'État de Bâle-Ville et à la Banque Claire. Avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous préciser différentes choses. Les fichiers audio ainsi que la transcription de cette conférence téléphonique et de celle réalisée à l'avenir seront publiés sur le site internet de la Banque Claire, où vous trouverez par ailleurs des informations telles que les horaires d'ouverture actuels de nos succursales ainsi que les possibilités dont vous disposez pour contacter vos conseillers et conseillères par téléphone, par email ou désormais aussi par vidéo. N'hésitez pas à en parler directement avec eux. Aujourd'hui, j'aimerais surtout parler de l'évolution des marchés financiers et des répercussions économiques de la pandémie, y compris sur les mandats de gestion de fortune et solutions de placement proposées par la Banque Claire. En effet, mon équipe et moi-même assumons la responsabilité des stratégies de placement élaborées dans ce cadre. Je tiens tout d'abord à préciser que nous aussi, gérants de fortune de la Banque Claire, nous nous soucions avant tout de la santé de la population et exprimons toute notre compassion pour les victimes de cette pandémie. Nous avons le plus grand respect pour l'ensemble du personnel soignant et médical, ainsi que pour tous ceux qui donnent de leur personne avec courage dans le but de soulager les souffrances de leurs concitoyens. Par ailleurs, je suis fier que la Banque Claire participe elle aussi au programme de soutien cantonal et national en accordant des crédits aux petites et moyennes entreprises. À l'échelle de la Suisse, du pays entier, des crédits transitoires de montant total de 17 milliards de francs ont déjà été octroyés aux entreprises helvétiques dans le cadre de ce qui constitue une mesure d'aide rapide et de grande envergure au vu de la taille de la Suisse et en comparaison internationale. Depuis notre conférence téléphonique du 23 avril, le nombre de personnes infectées a dépassé les 3 millions à l'échelle mondiale, et ce dès mercredi. Les États-Unis constituent l'épicentre de la pandémie depuis 3 semaines. Des premières mesures d'assouplissement ont déjà été décidées, voire mises en œuvre, par les gouvernements de nombreux pays européens. En Suisse, le Conseil fédéral a confirmé hier la poursuite du déconfinement à partir du 11 mai et l'a notamment élargi au secteur de la restauration. Il a déjà annoncé que de nouvelles mesures seraient appliquées à partir du 8 juin. Maintenant, je vais donner un tour d'horizon sur la situation globale pour ce qui concerne la pandémie. Je commence avec la Chine et le reste de l'Asie. Les pays asiatiques tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan parviennent toujours à empêcher que les cas d'infection ne repartent à la hausse. En d'autres termes, à endiguer une seconde vague. Est-ce malgré un net assouplissement des mesures de quarantaine? En effet, le nombre de décès recensés dans de nombreux États d'Asie très peuplés reste faible comparativement à l'Europe. Singapour a certes dû faire face à une seconde vague, mais la situation tend à s'apaiser. Pour ce qui concerne la Suisse et l'Europe, d'abord la Suisse, le Conseil fédéral a apporté hier de nouvelles précisions sur les mesures qui s'appliqueront à partir du 11 mai et du 8 juin. Le 11 mai, non seulement les écoles obligatoires ainsi que l'ensemble des magasins rouvriront leurs portes, mais un desserrage de vis dans les domaines du sport, de la culture et de la restauration viendra également compléter les mesures déjà annoncées. Les manifestations réunissant plus de 1 000 personnes, néanmoins, resteront, quoi qu'il en soit, interdites jusqu'en août. De nombreux États européens ayant mis en œuvre des mesures d'assouplissement ou les ayant prévues pour début de mai, la priorité est maintenant de surveiller de près l'évolution de la situation. le nombre de nouvelles infections enregistrées chaque jour constitue dans ce cadre un indicateur déterminant, ce qui présuppose bien évidemment un suivi suffisant au moyen de tests. Nous espérons donc que ces mesures ne provoqueront pas une nouvelle envolée du nombre de cas. Il faudra toutefois attendre au moins plusieurs semaines pour connaître les répercussions de cet assouplissement sur l'évolution de la pandémie. En Grande-Bretagne, en revanche, des mesures strictes devront encore être observées pendant un certain temps, car le nombre de nouveaux cas reste élevé et ne recule que lentement. Depuis son retour aux affaires, le Premier ministre britannique Boris Johnson suit une stratégie d'assouplissement aussi prudente que celle adoptée notamment par la Suisse et l'Allemagne ou l'Italie. De manière générale, on espère qu'une étape essentielle vers le retour à la normale en Europe pourra être franchie d'ici fin mai. Après l'Asie, le vieux continent, et notamment la Suisse, devrait lui aussi voir se démocratiser à partir de fin mai l'utilisation facultative d'une application permettant de reconstituer les chaînes d'infection. On ne devrait en revanche pas observer une ouverture des frontières au sein de l'espace Schengen et une normalisation du trafic aérien en Europe avant un certain temps, en juin au plus tôt. Je passe maintenant à la situation aux États-Unis. Comme malheureusement prévu, les États-Unis ont franchi hier la barre du million de personnes infectées. À ce jour, plus de 60 000 personnes y sont déjà décédées, de suite d'une infection pulmonaire. D'après les prévisions de la Maison-Blanche, on devrait en recenser quelque 75 000 d'ici août. La récente affirmation de Donald Trump selon laquelle le nombre particulièrement important de cas aux États-Unis s'expliquerait par la réalisation d'un très grand nombre de tests ne tient pas la route. En effet, la quantité de tests effectués par des États tels que l'Italie ou l'Allemagne est actuellement bien plus élevée. Il reste donc fort probable que les mesures d'assouplissement déjà amorcées un peu partout dans le pays génèrent une nouvelle flambée du nombre des cas. Aux États-Unis également, les prochaines semaines seront décisives pour l'évolution future de la pandémie. Pour de nombreux experts, le risque que le pays subisse le choc d'une seconde vague demeure élevé. En tout cas, il s'avère d'ores et déjà que le fait d'avoir très tôt mis en œuvre de premières mesures d'assouplissement n'a pas conduit à une reprise rapide et à large échelle de l'activité économique aux États-Unis. En effet, les craintes éprouvées par la population ne peuvent pas être apaisées par la simple annonce de mesures. À nos yeux, les États-Unis ont donc plus de chances de connaître une crise économique chronique que l'Europe et l'Asie. Au final, l'impact économique de la pandémie pourrait y être bien plus important. Donc, si on fait le point de la situation dans le monde entier, on peut dire qu'à l'échelle mondiale, on observe une première phase d'assouplissement que depuis fin avril. Il y a toutefois encore des raisons d'espérer un retour à la normale dans la plupart des régions du globe d'ici à mi-juin. Les statistiques du mois de mai montreront dans quelle mesure l'amélioration de la situation en Europe est durable et si les États-Unis ont oui ou non fait preuve d'une trop grande précipitation. Voilà, maintenant je passe à la situation sur les marchés des actions et pour les devises. Avril s'est avéré être un bon mois pour les marchés des actions. Depuis fin mars, les principaux indices d'actions mondiaux ont gagné entre 5 et 12 %. C'est le marché américain qui s'est le mieux rétabli, après naturellement avoir subi d'importantes pertes en mars. À ce jour, l'indice suisse des actions SMI a chuté d'environ 8,5 % depuis le début de l'année. Dans le même temps, le marché américain des actions a reculé de quelque 13 %. Celui de l'ensemble de l'Europe de 20 % et celui de la Chine de 6 %. La situation sur les marchés financiers s'est donc encore légèrement améliorée par rapport à la semaine dernière et naturellement pendant tout le mois d'avril. De nouveau, aussi pour ce qui concerne les devises, le franc est resté globalement stable par rapport à l'euro et au dollar depuis notre conférence téléphonique d'il y a une semaine. L'amélioration observée sur les marchés mondiaux des actions en avril a également eu des répercussions positives sur nos stratégies de placement. Les pertes indicatives que je vais présenter sont relativement modérées maintenant et ce sont les pertes qui ont été enregistrées depuis le début de l'année. Donc, je vais présenter les trois stratégies, rendement avec encart en titre actionnaire, en action, la stratégie équilibrée avec 50% en action et la stratégie de croissance avec trois quarts, 75% en action. Donc, la situation à présent, depuis le début de l'année, pour la stratégie de rendement, on est à moins 2,6%, la stratégie équilibrée à moins 4,3% et la stratégie de croissance à moins 6,4%. Ce sont les chiffres jusqu'à hier. Aujourd'hui, le marché a tombé un peu, donc ça sera à présent un tout petit peu pire. La situation s'est donc nettement améliorée depuis notre dernière conférence téléphonique, mais aussi naturellement de façon plus substantielle dans le mois d'avril. Les différences de rendement entre les stratégies de placement classiques et celles durables restent faibles, comme nous l'avions prévu. C'est même le cas que les stratégies durables ont une performance un peu meilleure, pas avec un grand écart, mais quand même. Les stratégies durables ont fait mieux dans cette année jusqu'à présent. Un peu mieux. Pour obtenir des informations plus précises concernant votre dépôt personnel, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller ou conseillère. Voilà, maintenant je veux discuter la situation sur l'économie. Au cours de nos trois dernières conférences téléphoniques, je vous ai présenté les probables conséquences de la crise actuelle sur la croissance économique, sur l'endettement des États et sur le chômage. La récession que nous traversons actuellement est la plus grave depuis la Grande Dépression des années 1930. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler de la reprise économique telle que nous la prévoyons. Elle devrait, selon nous, intervenir à partir du troisième trimestre. Sauf, bien sûr, si la seconde vague de la pandémie, qui pend au-dessus de nous telle une épée de Damoclès, devient réalité. Je vais malgré tout faire en sorte d'esquisser de premières perspectives pour les trimestres à venir. Je commence pour la Suisse. En Suisse, tout d'abord, le secrétariat d'État à l'économie, SECO, table après un recul important de 6,7% de la performance économique de cette année sur une croissance de 5,2% pour l'année prochaine 2021. Ce chiffre peut sembler ambitieux, mais ne représenterait fin 2021 qu'une performance économique inférieure de 2%, environ à celle enregistrée avant la crise. La SECO s'attend par conséquent à ce que même en 2021, le taux de chômage en Suisse demeure élevé autour de 4,1%, c'est le chiffre du SECO. Dans certains secteurs de l'économie, tels que la restauration, l'hôtellerie ou le trafic aérien et le tourisme, la demande devrait rester faible pendant un certain temps, même en supposant que les mesures de politique sanitaire pourront être davantage assouplies et que l'on n'observera pas de nouvelles vagues importantes de la pandémie. La reprise du commerce extérieur sera essentielle pour notre pays, car celui-ci représente environ 40% du revenu national. Même s'il est évident que la Confédération pourra, si nécessaire, stimuler la demande intérieure au moyen de programmes de relance, elle ne pourra pas influencer directement et de façon déterminante les exportations. L'économie helvétique sera donc tributaire de rétablissement rapide de la demande de la part de nos partenaires commerciaux. Plus de la moitié des exportations suisses s'effectue vers les 6 pays suivants, par d'ordre d'importance, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Il ne nous reste donc plus qu'à espérer que nos principaux partenaires commerciaux parviendront à limiter les effets différés, les licenciements, les défauts de crédit, les faillites d'entreprise. Or, comme nous l'avons dit lors de notre conférence téléphonique de la semaine dernière, l'impact économique de la crise pourrait être considérable en Italie et en Grande-Bretagne notamment, mais aussi aux États-Unis. À l'heure actuelle, il est donc tout sauf certain que les exportations suisses repartent vite à la hausse. Tous ces facteurs ne parlent pas en faveur d'un rétablissement très rapide de la conjoncture mondiale. On ne peut donc pas partir du principe qu'il s'agit d'une récession en forme de V. Au contraire, il faudra probablement attendre 2022 pour que l'économie retrouve sa vigueur d'avant la crise. Les programmes d'investissement actuellement préparés par l'Union européenne et les États-Unis pourraient la stimuler, mais il faudra pour cela que les investissements soient judicieux et orientés vers l'avenir. Une simple redistribution de fonds sans garantie de la rentabilité pourrait même au final nuire à long terme aux intérêts des entreprises privées. En Europe, le fait que l'État joue un rôle majeur dans l'atténuation des conséquences de la pandémie a jusqu'ici porté ses fruits. Il est toutefois légitime de se demander si de tels programmes étatiques de grande envergure qui visent à planifier l'économie seront réellement très efficaces. La disponibilité du capital à risque, l'allègement des formalités administratives et l'amélioration des conditions préalables aux investissements s'avèrent souvent plus efficaces à long terme que le fait de se contenter de soutenir l'économie via des investissements publics, qui ne se traduit généralement que par une croissance à court terme et peut involontairement occasionner de nouveaux problèmes et cas de dépendance. Donc, on a, disons, des doutes si les programmes de relancement qui auront lieu aux États-Unis, mais aussi dans l'Union européenne, auront vraiment beaucoup de chances de réussir vers les difficultés économiques qu'on envisage à ce point. Pour l'instant, il est donc difficile de prédire si la crise actuelle accélérera ou non la transition vers une économie plus durable. Il y a toutefois de bonnes chances pour que les nombreux plans Marshall élaborés un peu partout dans le monde favorisent la réalisation des objectifs climatiques à long terme. Le développement durable prenait de plus en plus d'importance en Europe avant la crise et la marge de manœuvre financière des milieux politiques a même augmenté avec celle-ci, tout au moins sur certains aspects. Nous nous attendons également à ce qu'après le redémarrage de l'économie, on prête davantage attention à certaines questions et tendances dans le cadre des débats politiques et économiques. Je ne peux pour l'instant pas y apporter de réponse définitive, mais il s'agit là des sujets cruciaux également pour notre comité de placement, en particulier dans le cadre de l'identification des thèmes d'investissement importants. Voici quelques-unes de ces questions. La Chine était en passe de devenir la principale puissance économique mondiale d'ici à la fin de cette décennie. Ce scénario sera-t-il remis en question ou accéléré par la pandémie? Les dernières décennies ont été marquées par l'augmentation des inégalités en matière de revenus, tant au sein des pays industrialisés comme les États-Unis contre les pays riches et pauvres. La pandémie va-t-elle inverser ou renforcer cette tendance? Par le passé, les débats relatifs au coût de la santé, qui a augmenté de façon exponentielle, ont incité ou contraint de nombreux pays à prendre des mesures visant à réaliser des économies. Ceux-ci changeront-ils leur fusil d'épaule en se montrant disposés à financer plus généreusement le système de santé. L'importance de l'État et la disposition de la population à payer plus d'impôts augmenteront-elles à la suite de la crise? L'économie sociale de marché deviendra-t-elle plus sociale ou plus de marché? Nous suivons ces tendances également dans le cadre de nos recommandations de placement thématique, qui peuvent généralement être mises en œuvre par les biais de fonds de placement dédiés, que nous sélectionnons parmi ceux proposés par les leaders du secteur, des fonds au moyen de processus systématiques internes. Conformément à notre approche du meilleur de la classe, nous choisissons pour vous les fonds de placement les plus pertinents parmi une très très vaste gamme de produits qui sont disponibles en Suisse. Si vous êtes intéressé, votre conseiller ou conseillère pourra également vous fournir de plus amples informations et vous indiquer quels sont les thèmes d'investissement concrets que nous recommandons. En particulier aussi pour ce qui concerne les investissements au sein durable ou des investissements qui adressent des questions, des trends à plus long terme. Voilà, je suis déjà aux conclusions. Il nous semble toujours réaliste de tabler sur une amélioration de la conjoncture à compter du second semestre. L'économie mondiale ne devrait toutefois pas reprendre très rapidement des couleurs. Nous continuons de suivre la situation de très près dans le cadre de nos activités de placement et restons donc susceptibles d'adapter notre stratégie de placement et notre tactique. Nous voici arrivés déjà à la fin de cette première série de 6 conférences téléphoniques relatives à la crise du coronavirus. Je vous rappelle déjà que 2 autres suivront le 14 et 28 mai. Vous recevrez à cet effet une nouvelle invitation. Il est possible que la série se poursuive en juin avec une fréquence adaptée. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et j'espère que mes explications vous auront été utiles. Merci bien, mesdames et messieurs.